Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre rendez-vous de musique liturgique sur Radio Présence, bienvenue sur Point d'Orgue. Alors avec le titre de cette émission, j'aurais pu en parler plus tôt. J'ai déjà montré quelques extraits de ce fabuleux instrument qu'est l'orgue, et en tant qu'organiste, c'est vrai que j'aurais pu lui faire une part un petit peu plus importante dans mon discours. C'est vrai que jusqu'à présent, on a eu beaucoup de chants chorales, et l'orgue était soit là pour accompagner, soit effectivement là de manière un petit peu accessoire. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de cette histoire d'amour, véritablement, que j'ai eue avec cet instrument. Alors, je vais peut-être pas vous parler de tout, mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire découvrir en profondeur cet instrument. Alors, on ne peut pas tout faire en une fois, comme d'habitude, puisque le temps nous est compté. Donc, je vais vous proposer à plusieurs reprises d'explorer diverses facettes de cet instrument incroyable. On va commencer tout simplement par évoquer historiquement cet instrument. Et puis, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous montrer différents styles de cet instrument. Parce que c'est vrai que quand on le regarde comme ça, ou quand on l'entend à la messe, parfois, il arrive que on ne puisse pas saisir toute la complexité de cet instrument, ce qui est bien dommage parce que c'est un instrument qui a une véritable histoire, un véritable patrimoine et, bien entendu, un véritable répertoire. Alors l'orgue, qu'est-ce que c'est? Avant d'être accroché au fond de nos églises, pendant longtemps, ça a été dans les jeux du cirque qu'on a pu l'entendre dans une version antérieure qui s'appelait l'hydrôle, qui fonctionnait donc avec la pression de l'eau. C'était comme presque une flûte de Pan, presque aquatique. Ça a été pendant très longtemps un instrument privilégié du pouvoir, puisqu'il a été utilisé beaucoup à Rome pour l'empereur, mais également à Byzance. Et ensuite, l'orgue, ce qui a été très intéressant, c'est que c'est un instrument qui a suivi la technique. Ça fait déjà appel à plusieurs corps de métier. Quand on regarde ces buffets incroyables, effectivement, il y a tout ce qui est menuiserie, il y a tout le travail du métal, il y a également le travail du bois des tuyaux, qui est différent de celui du buffet, etc. Ça appelle différents corps de métier, différents types de techniques. Donc, c'est vrai que au fur et à mesure, finalement, les orgues se sont étoffés. Ainsi, on peut voir aujourd'hui des buffets totalement spectaculaires de ces instruments, notamment si vous allez dans les pays de l'Est, en Allemagne ou des choses comme ça, vous avez parfois des œuvres d'art complètement incroyables. Il y a également dans les pays du Sud, en Espagne, au Portugal, des jeux de chamade. Vous savez, ce sont ces tuyaux qui sont à l'horizontale, qui sont complètement incroyables et qui donnent envie véritablement de se dire mais qu'est-ce que produit comme son cet instrument-là. Alors en fait, le son de l'orgue a beaucoup varié. Il a beaucoup varié, il y a aujourd'hui plusieurs esthétiques d'orgue. Et on a la chance, à Toulouse, si vous êtes toulousain, d'avoir un patrimoine qui recouvre à peu près toutes les périodes qu'on peut entendre de l'orgue, disons, assez classique dans sa forme. Alors, il y a eu un grand âge d'or, bien entendu, avec l'orgue dans la musique baroque. Bon, ça, je vais pouvoir vous en présenter quelques extraits tout à l'heure, avec les grands maîtres allemands, Buxtehude, Bach, bien entendu. Bon, évidemment, les Anglais n'étaient pas en reste, les Italiens n'en parlons pas. Mais je vous ferai tout à l'heure écouter un son très, très, très typique de cette période-là. Vous allez voir. Ensuite, un petit peu après, notamment au 19e siècle, il y a eu une autre période d'âge d'or de l'orgue. Mais là, ça a été une esthétique totalement différente. Vous allez le voir également tout à l'heure. On est passé dans l'esthétique dite romantique et symphonique pour cet instrument. Donc, vous allez là aussi comprendre pourquoi quand on va évoquer l'œuvre de tout à l'heure. Et ensuite, vous avez des orgues qui ont été mis un petit peu au goût du jour, donc qui ont suivi effectivement cette technique, puisque les orgues ont pu être électrifiés, les combinaisons ont pu changer lorsqu'on a voulu changer les sonorités de l'instrument. Et aujourd'hui, maintenant, on a des orgues qui sont capables de jouer la plupart des répertoires et notamment des choses qui sont en dehors du répertoire liturgique. Vous pouvez trouver de très grands orgues dans des magasins, par exemple aux États-Unis, il y a des orgues géants, ou dans les salles de concert de manière beaucoup plus globale, et ça dans le monde entier. Alors, on va commencer notre voyage. Alors, on va remonter le temps, hein, aujourd'hui. On va commencer avec cette grande période qu'est le baroque, avec un compositeur particulier, bon, une véritable star dans le milieu. Il s'agissait de Couperin. Couperin, ça a été un très 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 grand musicien. Je vous en ai déjà parlé dans une émission précédente. Là, on va écouter très spécifiquement son répertoire. Alors, il est. Pourquoi est-ce que je vais vous faire écouter Couperin? Parce qu'il est très représentatif d'une forme d'esthétisme qui est particulier, le style français, le grand style français. Vous allez le voir avec l'orgue. Alors là, vous allez écouter Michel Bouvard qui joue un extrait de la messe pour les paroisses, qui est l'Agnus Dei. Vous allez entendre un dialogue sur les grands jeux. Alors, j'ai choisi cette pièce parce que vous allez pouvoir voir plusieurs couleurs de l'orgue. Effectivement, un dialogue. Donc différents plans sonores qui vont se répondre, ça c'est très intéressant, et surtout l'esthétique particulière de l'orgue français. Vous allez notamment entendre ce qu'on appelle les anges, ce sont les jeux les plus puissants, les plus éclatants, les plus brillants, qui sont tout à fait typiques de l'orgue français et de l'esthétique française. Donc là, vous avez un Agnus Dei qui n'est pas très intérieur, mais qui est très brillant dans la forme, ce qui aujourd'hui est quelque chose qu'on a un petit peu perdu, mais qui est très caractéristique de ce grand style français. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir tout de suite qu'est-ce que c'est que ces trompettes si brillantes. Et donc voilà comment s'exprime en musique le grand siècle français. C'est tout à fait incroyable. Alors c'est bien entendu sur un type d'instrument assez particulier qu'il faut jouer cela. C'est un patrimoine qui parfois a pu un peu souffrir de la mode, notamment au nom de cette mode et au nom des sonorités qu'on voulait entendre à une certaine époque. On a même remplacer l'orgue de la chapelle royale du château de Versailles, imaginez-vous. Alors aujourd'hui, les choses sont un peu revenues à la normale, puisqu'on a considéré qu'un tel lieu devait respecter ce genre de répertoire, mais effectivement, c'est un répertoire tout à fait particulier à jouer sur des instruments, là aussi, tout à fait particuliers. On peut pas s'appesantir dessus, donc je suis désolé de passer presque du coq à l'âne, parce qu'il y a une filiation qui va peut-être vous échapper avec la suite. Mais on va tout de suite plonger dans le 19e siècle avec un compositeur dont je vous ai là aussi déjà beaucoup parlé. Il s'agit de César Franck. César Franck qui a été un très très grand compositeur. Il est né en Belgique, mais il a fait toute sa carrière en France. Et il a écrit véritablement des chefs-d'œuvre pour l'esthétique du 19e siècle. Alors, cette esthétique est tout à fait particulière. On va rentrer dans un orgue qui va être un véritable orchestre. C'est pour ça que on parle d'esthétique romantique au XIXe siècle, mais également d'orgue dit symphonique. On va avoir des orgues véritablement orchestres. C'est tout à fait incroyable et parlant sur cette période d'avoir un instrument qui se substitue aux autres. Vous allez avoir, quand vous utilisez les jeux de fond, l'impression immense d'avoir un orchestre à cordes. Et puis vous avez les autres instruments qui répondent, parfois la clarinette, parfois le hautbois, qui sont des jeux solistes tout à fait extraordinaires de cette période. Ça va de pair également avec des progrès techniques importants, notamment parce que de grands facteurs d'orgue se sont illustrés sur cette période, bon, le plus illustre étant Aristide Cavaillé-Coll, qui a été l'équivalent presque de Stradivari pour les orgues au XIXe siècle. Et il a mis en place certaines avancées technologiques, la machine Barker par exemple, pour faciliter le jeu. Et effectivement, c'est là où l'orgue a pu prendre une dimension tout à fait différente avec des compositeurs majeurs. Alors j'ai cité Franck, bien entendu, il y a d'autres compositeurs qui ont écrit des pièces extraordinaires. Je pense à Mendelssohn et je pense également à Franz Liszt. Mais là, on va s'intéresser à César Franck. Alors, je vais vous proposer d'écouter le Cantabile, qui est un extrait des trois pièces pour grand orgue de César Franck, interprété par Olivier Latrice, qui est très intéressant dans cette pièce. Alors, Cantabile, ça veut dire que c'est chanté, donc vous allez voir qu'il y a un chant qui va se détacher avec des jeux particuliers, et surtout vous avez tout à fait cette version orchestrale, avec les violons qui emmènent le thème qui est mis en exergue. Donc je vous laisse découvrir cette esthétique romantique et symphonique sous les doigts d'Olivier Latré. une écriture tout à fait singulière avec ce morceau de César Franck. Moi, j'ai l'impression que quand on l'écoute, c'est un petit peu comme si on récitait une poésie. Ce cantabile, c'est une récitation. Vous avez un fond sonore, donc par ces jeux de fond qui manifestent, comme je vous l'avais un petit peu décrit, l'orchestre, et vous avez cette espèce de récit qui est au-dessus, avec les jeux qui racontent une belle histoire. Et c'est le propre véritablement de la musique romantique qu'on retrouve chez Franck, qui est l'un des plus grands compositeurs d'orgue du 19e siècle, enfin de la fin du 19e siècle. Et maintenant, on va voir le dernier grand style que je vous propose aujourd'hui, qui est radicalement, là pour le coup, différent. On va rester en France, et je vais vous proposer un morceau d'Olivier Messiaen, ce sont ces fameux Transports de joie. Alors, Messiaen, c'est une écriture tout à fait particulière, donc un immense organiste du XXe siècle, qui a œuvré à Paris. Et c'est également un grand mystique. Beaucoup de ses compositions se tournent vers le Christ, et énormément de ses compositions ont quelque chose en rapport avec la foi et le mysticisme. Dans le morceau que je vous propose, Les Transports de joie, qui est un extrait de ses morceaux pour l'Ascension. Alors le titre même de l'œuvre est assez évocateur. À propos de mysticisme, je vous le donne en entier, c'est transport de joie d'une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne. Donc vous allez voir l'orgue exultant, extrêmement brillant et avec toutes les phases de la gloire qui est. Ces phases sont très très protéiformes finalement, mais tout le but, l'objectif de cette composition, c'est de montrer la puissance et d'envelopper l'auditeur dans la gloire de Dieu. Donc vous allez voir, c'est de la musique qui est assez spéciale. On est dans le XXe siècle, mais on est dans de la très très grande composition pour orgue. Je vous propose une interprétation absolument magistrale de Jean-Claude Reynaud à la basilique Saint-Sernin de Toulouse.
Thank you.
un accord parfait qui peut presque sembler étonnant, mais qui se comprend tout à fait dans ce que juge Messiaen être la gloire de Dieu, complètement éclatante et qui se propage dans toute la basilique. Voilà, donc c'était un rapide, très 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 rapide tour, bien entendu, on pourrait aller bien plus dans le fond sur le répertoire de l'orgue. Mille et une choses n'ont pas été dites, je me suis concentré uniquement dans la France, bien entendu, nous retournerons faire des comme liste des années de pèlerinage dans d'autres pays. Je vous emmènerai en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Angleterre. Mais aujourd'hui, voilà quelques palettes de ce son typiquement français. J'espère que ce voyage vous a plu et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.